le magazine des Nations Unies.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, le sommet. La 48e réunion du comité consultatif permanent de l'ONU a vécu. Les ministres des Affaires étrangères de 11 États de la CIAC conviennent de donner plus de tonus à la lutte contre les maux qui entravent la paix, la sécurité et le développement de la sous-région. Le point dans cette édition. Ebola, parlons-en. Le Royaume-Uni annonce un financement pour des enterrements sûrs, dignes et sécurisés. La ministre britannique pour l'Afrique a effectué une visite de 4 jours en RDC. Enfin, les casquets bleus de la MONUSCO à l'honneur à Kalemie et à Uvira. C'était à l'occasion de leur journée célébrée le 29 mai de chaque année dans le monde. Cette année, plusieurs activités ont été organisées au surplus de la province du Tanganyika pendant 2 jours. Dans cette édition, le magazine des Nations Unies revient sur ce qu'a été la première journée de cet événement à Kalemie et sur ce qui s'est passé à Uvira au sud de Kivu.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour et bon dimanche chez vous. La 48e réunion du comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de la sécurité en Afrique centrale appartient au passé. Les assises s'est clôturées ce week-end sur une déclaration finale engageant les 11 États membres de la CIAC à mutualiser leurs efforts en vue de poursuivre la lutte contre les groupes armés, le terrorisme et la violence criminelle et à trouver des solutions aux phénomènes liés à la transhumance transfrontalière et à la piraterie. Jean-Pierre Lali Coco nous en fait le point.
Je déclare clos les travaux de la 48e réunion ministérielle du comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale. Je vous remercie.
C'est avec ce mot traditionnel et applaudissement que le ministre congolais AI des Affaires étrangères et intégration régionale, Mwedi Malila Frank, a clos les travaux. Travaux marqués d'abord par des échanges sur le rapport de la réunion des experts du 27 au 30 mai. Dans sa déclaration finale, le comité a noté que malgré les développements positifs enregistrés, l'Afrique centrale continue d'être confrontée à des défis sécuritaires considérables. Nebigira Ezekiel, ministre burundais des Affaires étrangères.
Exprimer également leur vive préoccupation sur la recrudescence de la prolifération des armes légères et de petits calibres, du terrorisme, de la criminalité, du braconnage, du trafic de drogue, ainsi que le pillage des ressources naturelles liées à la transhumance transfrontalière.
Et s'agissant de la transhumance transfrontalière, cette recommandation.
Appeler d'urgence à une conférence de haut niveau pour discuter des questions liées au pastoralisme et à la transhumance.
Le ministre congolais Mwedi Malila, en sa qualité du président des séances, a interpellé ceux qui traînent encore le pied pour leur contribution au financement des institutions régionales.
Saisis cette opportunité pour féliciter les États du Rwanda, de l'Angola et de la République démocratique du Congo pour la régularisation de leurs contributions, tout en invitant par ailleurs ceux qui ne l'ont pas encore fait d'en faire autant pour la bonne marche des activités du comité.
Au nom de tous les membres du comité, Madame Baipo Temon Valérie, ministre centrafricaine des Affaires étrangères, a lu un message de remerciement au président Félix Tshisekedi.
Parlons Ebola à présent, le Royaume-Uni apporte son soutien dans la riposte contre cette épidémie. Outre son assistance logistique et financière aux côtés d'autres partenaires, il annonce le versement de nouveaux fonds d'aide à la Fédération internationale de la Croix-Rouge pour l'aider à organiser des inhumations sûres et dans la dignité. La ministre britannique pour l'Afrique a effectué une visite de 4 jours en RDC. Le point sur cette visite avec Jean-Pierre Elali Ikoko.
À l'étape de Butembo, dans le Nord Kivu, Madame Ariette Baldune a visité un centre de traitement de l'épidémie à virus Ebola et les personnels soignants.
Butembo, nous avons visité une clinique d'Ebola. J'ai constaté qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment des héros, qui travaillent dans une situation atroce, très difficile, avec beaucoup de malades.
À ce stade, elle a annoncé l'octroi d'un financement en appui à la Fédération internationale de la Croix-Rouge pour des enterrements sûrs, dignes et sécurisés dans la capitale Kinshasa. La ministre britannique a rencontré le président Félix Tshisekedi et d'autres officiels congolais. Madame Baldun et ses hôtes ont passé en revue tout le programme de la coopération britannique de lutte contre la pauvreté. Le Royaume-Uni est le premier bailleur de fonds de la RDC. Il intervient notamment dans le domaine de la santé, eau hygiène et de l'éducation.
Autre fait d'actualité de la semaine, c'est la célébration de la journée internationale des casques bleus à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Pendant deux jours, le 28 et le 31 mai dernier, plusieurs activités civiles et militaires ont été organisées sous la présidence du maire de la ville et en présence notamment des responsables de la MONUSCO et des agences du système des Nations Unies. Reportage de la première journée avec Expedi Mwambamubi.
Les casques bleus sont des hommes et des femmes, civils et militaires, qui ont servi ou servent encore dans les opérations de maintien de la paix à travers le monde. D'après le chef de bureau intérimaire de la MONUSCO, plus de 100 000 casques bleus sont aujourd'hui engagés. De nombreux autres ont péri dans les opérations de maintien de la paix. Au total, 3 800, parmi lesquels des casques bleus déployés dans le Tanganyika. Monsieur Isaka Danyossi, chef de bureau AI.
Trois casques bleus civils et en uniforme que nous avons perdu dans la province du Tanganyika depuis 2017. Leurs noms sont Ali Souleyman, Benjamin Saïdi, Jean Sangoua.
Pour répondre aux critiques que l'on entend ici et là sur l'inefficacité supposée des casques bleus, le coordonnateur de la nouvelle société civile rappelle aux Tanganyikais le rôle exact du personnel onusien. Rogatien Kitenge.
Nous ne pouvons pas leur demander davantage. Bien entendu, eux viennent en appui. L'essentiel doit être fait par nos forces armées, notre PNC, nos autorités.
Le maire de la ville insiste sur leur engagement. Kalemi, Expedi Mwambamubi, Radio Kapi.
De Kalemi, rendons-nous cette fois-ci à Uvira, au sud Kivu, pour le même événement. La journée des casques bleus a été célébrée dans la convivialité entre les staffs de la MONUSCO et les femmes des mouvements associatifs. À cette occasion, plusieurs acteurs de la société civile ont salué l'engagement de l'ONU dans la cause de la RDC en général et celle des milliers ruraux d'Uvira et de Fizi en particulier. Les propos de certains d'entre eux au micro de Fiston Ngoma.
Nous sommes vraiment reconnaissants envers les actions menées par les casques bleus. En tout cas, ils ont beaucoup intervenu et nous rendons hommage aux casques bleus qui ont perdu leur vie ici en RDC. Et tu vois que les gens qui ont quitté leur pays, qui s'engagent pour défendre la cause et les droits et la protection de la population congolaise, ce n'est pas facile. Nous espérons qu'ils auront encore un autre mandat pour la continuité jusqu'à ce qu'il y aura la stabilité.
Nous avons vu l'intervention de ces casques bleus sur le terrain par leur tactique. C'est en 2017, ils ont arrêté la troupe de Yakutumba pour mener leur incursion ici à Uvira. Nous voulons que la mission de casques bleus, qui est une évaluation par rapport à leur action sur le terrain, par rapport aux groupes armés, par rapport à la gouvernance, même par rapport aux tensions, aux turbulences communautaire, mais aussi que le Conseil de sécurité puisse étudier un nouveau mandat.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
L'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles constituent l'objectif 5 des objectifs de développement durable ODD. Ce dimanche encore, le magazine des Nations Unies revient à la charge avec les deux experts du PNUD RDC, Jean Amissi et Idesbal Chinamula, qui répondent aux questions d'Honoré Missenga Kalala.
Idesbal Chinamula, bonjour.
Bonjour.
Jean Amissi, bonjour.
Bonjour.
On continue aujourd'hui avec le cinquième objectif de développement durable, celui relatif à l'égalité des sexes et à l'autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles. Idesbal Chinamula, pourquoi l'égalité des sexes?
On insiste beaucoup sur l'égalité des sexes parce que pendant longtemps, dans notre système de développement et les systèmes traditionnels, on peut dire, il y a eu un problème majeur qui a été relevé. C'est le fait que les femmes ont été pendant longtemps moins considérées que les hommes. Dans plusieurs civilisations, en tout cas dans toutes les civilisations, on peut dire. Leur potentiel n'a pas été toujours valorisé comme il se doit. Et dans beaucoup de traditions, beaucoup de cultures, les femmes n'ont pas bénéficié des mêmes atouts, des mêmes chances que les hommes. Alors, ces faits historiques, ces passifs, on peut dire, a eu des conséquences aujourd'hui sur la situation du monde, en termes des sorts du monde aujourd'hui. Et souvent, on confond la différence biologique en différence de compétences, où on considère la différence biologique comme des obstacles, alors qu'il n'y a aucun obstacle à être homme ou à être femme et accomplir les progrès, accomplir les tâches. De façon globale, la situation des femmes s'est présentée sur trois grands aspects. Donc sur le plan politique, elles n'ont pas d'espace, elles ne participent pas à la prise de décision, elles ne sont pas dans les institutions politiques, très faiblement représentées. Sur le plan économique, elles n'ont pas des ressources, elles ne sont pas propriétaires. Et troisièmement, dans la vie publique, de façon générale, les femmes ont toujours été en marge également.
Alors j'ai ici un complément.
Il faudrait d'abord retenir qu'au monde, 53% de la population mondiale est féminine. Et en RDC, cette proportion monte à peu près à 54%. Mettre à l'écart 54% de la population congolaise ou 51-52% de la population mondiale serait priver l'humanité d'un levier important, essentiel de l'accroissement de sa productivité et de l'accroissement de sa croissance. C'est pourquoi tous les pays du monde, y compris la RDC, souscrivent au cadre juridique qui protège et qui accorde de droits aux femmes. La RDC a souscrit à plusieurs conventions régionales et internationales, en commençant par la Déclaration universelle des droits de l'homme qui consacre l'égalité entre l'homme et la femme. La Constitution de la République démocratique du Congo consacre également cette égalité, mais malheureusement, dans le fait, il existe des très fortes disparités dans l'accès aux opportunités économiques, dans l'accès à l'éducation, dans l'accès aux revenus, l'accès aux terres. Et ces facteurs-là sont pénalisants et affectent en réalité les capacités d'une nation.
L'égalité des sexes, mais il y a un deuxième concept, l'autonomisation des femmes et des filles. En quoi consiste l'autonomisation des femmes et des filles, Idriss Bald?
L'autonomisation des femmes et des filles consiste justement à leur permettre d'être aussi des détentrices des actifs. Les statistiques l'indiquent encore qu'elles ne sont pas propriétaires d'entreprises. Elles ne sont pas à des postes de responsabilité, des décisions. En termes d'emploi, vous allez voir qu'il y a des discriminations. Quand il s'agit des revenus entre les hommes et les femmes, vous allez voir que dans la plupart des ménages, les femmes passent leur temps à la maison. Et les femmes sont à la maison en train de rendre des services très importants pour la nation, c'est-à-dire en train d'encadrer les femmes. Malheureusement, il se fait que ce travail domestique qui consomme une grande partie du temps des femmes, ce travail n'est pas rémunéré. Pendant ce temps, l'homme, lui, travaille. Et celui qui ramène à la maison des revenus, en termes de revenus numéraires, et ça pose déjà un problème de discrimination. Alors sur cette base-là, il faut voir effectivement comment valoriser ce travail domestique. Il y a des pays où effectivement, à cause de ça, parce que la femme a un diplôme, parce que la femme a étudié d'une certaine façon, elle est rémunérée. C'est pour ça qu'il y a des systèmes de sécurité sociale où on va quand même indemniser la femme qui a fait le choix de rester à la maison pour accompagner les enfants, pour entretenir la maison. Il y a également des mécanismes de compensation qui sont prévus dans ce sens. Donc l'autonomisation, c'est donner aujourd'hui à la femme cette possibilité-là d'être détentrice des actifs, de pouvoir développer des activités, de pouvoir également entreprendre des actions qui lui permettent de développer ses capacités, de mettre en exerce son potentiel.
Il faut libérer la femme, il faut l'autonomiser. Mais quelle est la responsabilité de la femme elle-même dans cet objectif?
Oui, quand on dit qu'il faut la libérer, il faut la promouvoir, nous sommes en train de parler de mettre en place un environnement qui permet justement à la femme de valoriser son potentiel. Et quand nous parlons de cela, nous regardons déjà les pesanteurs culturelles avec toutes les lois qui étaient discriminatoires, ainsi de suite. Il faut faire lever ces verrous-là, c'est ce que nous sommes en train de dire. Mais la femme elle-même, elle est consciente de ses capacités. Et c'est vrai que les hommes également peuvent jouer un rôle très important, parce qu'il n'y a pas que les femmes, il y a aussi les hommes qui, eux-mêmes, dans l'éducation qu'ils ont reçue, certains ont carrément appris à comprendre qu'ils sont supérieurs aux femmes. Et donc, sur cette base, les hommes aussi peuvent jouer un rôle très important dans le cas de ces ODD. Il y a plusieurs programmes qui sont justement orientés vers les hommes. Il faut que les hommes comprennent leur rôle, comment ils peuvent jouer un rôle positif, justement, dans la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes.
Oui, on parle de la masculinité positive.
Bien entendu, il y a un programme que nous appelons He for She, qui est un programme important, qui permet effectivement aux hommes de comprendre qu'ils ont tout à gagner lorsqu'ils considèrent à juste titre leurs collègues femmes et aussi dans le foyer, comme mon collègue me le disait, un homme qui comprend que si sa femme travaille et lui-même travaille, donc il réduit la vulnérabilité du foyer parce qu'effectivement l'un peut connaître des difficultés et l'autre va prendre le relais.
J'ai mis ici une conclusion par rapport à l'objectif 5.
Je voudrais ajouter un élément aussi essentiel de l'autonomisation de la femme et pour lequel il y a beaucoup de réticences dans notre pays. C'est par rapport au contrôle au sein du foyer. Il faudrait absolument, premièrement, qu'au sein du foyer, qu'on arrive à une répartition des tâches entre l'homme et la femme. Dans notre pays, on a l'habitude de considérer ou de croire que toutes les tâches ménagères appartiennent à la femme. Non, monsieur. Les tâches ménagères doivent être faites à due concurrence entre l'homme et la femme. D'autres peuvent associer des enfants adultes. Ça, c'est un premier aspect. Deuxièmement, l'affectation des ressources de ménage. Parce que c'est l'homme, habituellement, qui amène de l'argent à la maison. L'homme croit que c'est lui, nécessairement, qui doit répartir cela, et uniquement comme lui l'entend. Non. La répartition des ressources du foyer, qu'elles soient produites par l'homme ou par la femme, doit être faite par les deux conjoints. Troisièmement, la décision concernant la reproduction. Ce n'est pas à l'homme qui revient la décision de dire, écoutez, moi, vous êtes femme, je vous donne 10 enfants. Non, la reproduction doit faire l'objet d'un consensus toujours entre l'homme et la femme. Et enfin, les décisions concernant la santé et l'éducation de l'enfant. La femme est l'égale de l'homme selon la loi en RDC. Et toute décision concernant les questions de santé, les questions de l'éducation de l'enfant doivent être gérées de manière consensuelle et équilibrée entre l'homme et la femme. Et donc, nous devons briser ces tabous et faire en sorte qu'au sein du foyer, que la place de la femme soit garantie et que les décisions se prennent non pas des forces par l'homme, mais de manière consensuelle.
Jean-Missy, de Sébastien de Sinamoa, merci beaucoup.
Dans cette page de nouvelles en bref, retenez d'abord que le 31 mai, c'est la célébration mondiale sans tabac. Cette année, l'événement a eu lieu vendredi dernier. À cette occasion, l'Organisation mondiale de la santé OMS a attiré l'attention sur l'ampleur des décès imputables à des maladies pulmonaires liées au tabac. Le thème de cette année était d'ailleurs « Ne laissez pas le tabac vous couper le souffle ». Selon l'OMS, le tabac a tué 3,3 millions de fumeurs et des personnes exposées à la fumée des autres. Ainsi, lance-t-elle un appel aux dirigeants du monde et aux partenaires pour qu'ils prennent davantage de mesures visant à protéger les gens contre l'exposition au tabac. Inclusivité du genre, il a été question la semaine dernière à Entebbe en Ouganda. Le 28 mai 2019 précisément, l'équipe genre de la MONUSCO a organisé sa retraite annuelle dans la ville ougandaise. Question de réfléchir sur les voies et moyens de travailler à l'amélioration de l'inclusivité du genre dans toutes les politiques et les opérations de la mission. Il faut noter que la section genre est l'une des équipes les plus équilibrées et les plus diversifiées de la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC, la MONUSCO. La moitié de son personnel est congolaise contre l'autre moitié provenant de 6 nations différentes. Enfin, MONUSCO encore, nous sommes au sud Kivu. Le chef de bureau de la mission Sorokarna a lancé un appel aux communautés locales les encourageant à trouver une solution définitive au conflit intercommunautaire à Minembwe et Itombwe dans les hauts plateaux de Fizi et Mwenga. C'était au cours d'un conseil local de sécurité qui s'est tenu le jeudi 30 mai dernier. Un conseil élargi aux représentants des Banyamulenge, Bafuliro, Banyindou, Babembe ainsi qu'aux groupes des jeunes et des femmes et aux autorités civiles, militaires et policières. L'appel du chef de bureau de la MONUSCO Sud Kivu et Maniema fait suite au conflit entretenu depuis quelques semaines par des miliciens et qui ont eu des conséquences fâcheuses dans la région.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
L'invité de cette édition est Baudouin Amouli Kabarouza. Il est directeur des affaires politiques de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. À ce titre, Baudouin Amouli a participé la semaine dernière à la 48e réunion du Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale qui s'est tenue à Kinshasa du 27 au 31 mai dernier. C'est au tour des thèmes évoqués à cette rencontre qu'il répond aux questions de Jean-Pierre Elali Ikoko. Suivez.
Baudouin Amouli Kabarouza, bonjour.
Bonjour.
Vous participez aux travaux de la 48e réunion ministérielle du Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale. Quels sont les nouveaux enjeux de cette rencontre?
Les réunions de l'UNSAC, en tout cas pour le segment des experts que nous sommes en train de vivre maintenant, vous savez qu'on commence d'abord par l'analyse de la situation géopolitique et sécuritaire régionale. Le secrétariat général de la CAC prépare un document d'analyse générale de la région. Dans ce document d'analyse, on regarde les tendances qui sont lourdes sur le plan sécuritaire. On regarde aussi les nouvelles menaces. Maintenant, là, il y a des tendances qui sont des tendances lourdes qui sont bien connues, comme par exemple le fait qu'il y a une grosse crise économique dans la région et que les États ont très peu d'argent. Et cela a un impact sur la vie économique, politique, sociale, etc. Et donc aussi les difficultés des États de pouvoir gérer les problèmes sécuritaires qui émergent. Il y a des problèmes notamment des groupes armés à gauche et à droite. Il y a des problèmes dans certains pays, comme par exemple la RCA, qui est heureusement maintenant en train de progressivement de régler le problème. Maintenant, il y a les nouvelles menaces.
Justement, lorsqu'on parle de menaces, il y a d'autres problèmes qui sont récurrents. Il y a par exemple les conflits transfrontaliers. Il y a aussi des problèmes comme le terrorisme et la transhumance transfrontalière. Quelles issues de sortie peuvent offrir de telles rencontres comme celle de Kinshasa?
Oui, ça en fait ce sont maintenant les nouvelles menaces. Le pastoralisme est débattu ici. Nous avons vu que si on ne règle pas ce problème de transhumance anarchique, où les éleveurs sont armés et entrent dans des états sans tenir compte des frontières.
On parle de Mbororo, par exemple, dans l'ex-province orientale.
Oui, on parle de Mbororo en RDC, mais le même Mbororo, on parle d'eux aussi au Cameroun, même au Nigeria. Donc il y a tout un mouvement d'éleveurs qu'on appelle Mbororo, mais il y a d'autres qu'on n'appelle pas Mbororo qui ont aussi d'autres noms. Vous voyez, mais c'est un mouvement global d'éleveurs qui quittent la zone sahélienne là-bas, qui sont à la recherche de pâturage pour leur bétail. Et quand ils traversent les États, souvent ils traversent soit des zones qui sont des zones de sécheresse, soit des zones où il y a des groupes armés, comme par exemple tous les croissants de la RCA, où il y a des groupes armés. Leur problème, c'est où se trouvent les terres. Et ils partent avec des milliers de bêtes.
Et quelle solution on peut trouver à ces genres de problèmes, notamment la transhumance transfrontalière?
Nous sommes en train d'analyser ça. Je crois qu'il n'y a pas de solution encore adoptée par les ministres. Il y a eu une mission jusqu'à Doumou, coordonnée par les Nations Unies, l'UNOCA, et il y avait des experts de différents pays. Ils n'ont pas eu tous les éléments, mais les éléments qu'ils nous ont rapportés nous permettent de continuer le processus. On a été au Tchad, au sud du Tchad, pour regarder ces mêmes phénomènes. Les dossiers seront soumis à l'examen des ministres. Les ministres vont peut-être décider que d'autres structures publiques puissent pouvoir regarder tout ça et on arrivera à des solutions. Ici, c'est un comité consultatif. Les ministres ne viennent pas décider ce qu'il faut faire. Ici, les ministres viennent analyser et recommander le travail à faire. Alors, les décisions sur les actions à faire vont passer par le mécanisme décisionnel qui, lui, est déterminé par ce qu'on appelle le protocole du COPACS.
Là, les chefs d'État de la région n'interviennent pas?
Pas à ce niveau-ci. C'est par le mécanisme décisionnel que les chefs d'État vont intervenir. Donc, ce sont les chefs d'État qui décideront qu'est-ce qu'il faut faire. Ce qu'il nous faut, c'est la paix, c'est la sécurité chez nous, et aussi le développement, bien sûr.
Ces comités existent depuis 27 ans. Aujourd'hui, quel bilan peut-on faire de cette institution de l'ONU?
Vous savez, nous sommes passés par des années extrêmement mauvaises. Vous vous rappelez ce qu'on a appelé Africa World War One. C'est la guerre mondiale africaine. Ça, c'était la guerre du Congo. La partie où il y a eu des guerres dans notre pays, les années 96, 97, 98, 2000. C'est des années extrêmement difficile. Comme maintenant on commence à vivre un peu petit à petit la paix, on commence à oublier ce qui s'est passé. Nous avons eu des problèmes avec les pays limitrophes à l'époque. C'est ça qui a poussé la mise en œuvre de la conférence des Grands Lacs pour qu'un processus de dialogue entre les États puisse s'amorcer et qu'on se mette d'accord et qu'on avance. Et on a signé le pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement de la région des Grands Lacs. Ça, c'est en 2006. Il fallait donc un espace où les ministres peuvent se rencontrer pour échanger. Aujourd'hui, il n'y a plus de tension entre les États, pratiquement.
Donc, on a fait un grand pas.
On a fait un très grand pas. Bon, même si on parle des tensions entre le Rwanda et le Burundi, mais c'est des tensions, je dirais, légères. Nous avons dépassé cette période-là. Nous sommes dans une période où, pratiquement, il n'y a pas de guerre entre les États. Il y a des difficultés internes dans certains États. La tendance est plus vers l'apaisement. Et heureusement qu'il y a le comité consultatif permanent qui a été mis en place, de l'UNSAC, là, qui permet ces consultations comme maintenant.
Vous parlez des conflits frontaliers qui se sont un tout petit peu atténués, mais à la base, se trouvent certaines ressources naturelles, notamment le pétrole, mais aussi, par exemple, le partage des eaux du fleuve Congo avec le Tchad. Est-ce que ces problèmes sont aussi abordés dans ces genres de forums?
Bon, je dois avouer que le pétrole n'a jamais été cité comme une ressource naturelle conflictuelle entre les États. Ça, je le dis très clairement.
Mais en ce qui concerne justement le partage des eaux du fleuve Congo avec le Tchad.
Il n'y a pas de partage des eaux avec le Tchad. D'ailleurs, le Tchad n'est même pas réellement concerné. Ce qui est concerné, c'est le lac Tchad. Et le lac Tchad est la propriété de plusieurs pays.
Mais ça ne peut pas être la base d'un conflit,
non,
parce que
jamais,
c'est nos eaux qui doivent jamais, être transférées là-bas.
Jamais. Moi, je le dis, je suis ambassadeur à Moulikabarouza. Je connais le pays et j'étais là, moi-même. J'ai travaillé avec le CBLT, la commission du bassin du lac Tchad, pour prendre l'information nécessaire sur cette affaire. Oui, il y a eu des propositions disant qu'il fallait prendre l'eau de l'Ubangi et pomper cette eau jusqu'au lac Tchad pour alimenter et renflouer le lac Tchad. Mais la RDC n'était pas d'accord. Parce que si vous pompez les eaux de l'Ubangi, qu'est-ce que nous allons avoir comme débit au niveau de Inga? Or, Inga, c'est le barrage qui doit donner l'électricité à toute l'Afrique. Donc, vous ne pouvez pas tuer un projet par un autre. Ce n'est pas possible. Ils ont vu qu'il n'était pas possible de pomper l'eau depuis l'Ubangi jusqu'au bassin du lac Tchad. Parce qu'il faut beaucoup d'énergie. Il n'y a pas d'énergie dans la région. C'est un projet pharaonique encore, un projet de rêve.
Oui, Baudouin à Mouli Kabarouza, je vous remercie.
La nouvelle de province nous amène à Kalemie, dans la province du Tanganyika, où la force et la police de la MONUSCO ont participé à une patrouille mixte avec la police nationale congolaise. C'était dans la nuit de jeudi dernier. Objectif de la participation onusienne à cette opération, contribuer à la lutte contre l'insécurité grandissante au chef-lieu de la province du Tanganyika. François-Xavier Mivé.
À 21h quart déjà, la troupe est mise en place. Deux jeeps de la police nationale congolaise et une dizaine d'autres véhicules des casques bleus indonésiens, dont 6 blindés transporteurs de troupes et d'autres d'attaque, s'engagent sur la voie jusqu'au bureau de la cité de Kalemie. Il est 21h50. La rencontre avec la population au marché Katanga Kivu, tout comme au rond-point de Kamachala, permet aux populations de délier leur langue. L'occasion aussi pour les patrouilleurs de réaliser qu'autour des 22 heures, les routes de Kalemie deviennent désertes. Seuls, les rares motards qui savent braver encore la peur sont rencontrés sur la route. Il y a aussi la musique jouée par-ci par-là qui déchire le silence de la nuit. Et la lune est aussi au rendez-vous pour éclairer la nuit. À 23h20, le cortège atteint la place Kisebwe. Sur la route conduisant au quartier Kitoukou, le cortège s'arrête et échange avec un groupe d'autres jeunes, dont certains se retrouvent à l'état d'ivresse. La chef de la police de la MONUSCO lance, comme partout ailleurs, le même message de réconfort à la population. Sonia Melki.
Vous pouvez contacter la MONUSCO. Nous, on tire leur attention. Ils ont la volonté de changement, ils ont la volonté de vous protéger, et c'est leur rôle.
À 0h, l'équipe retrouve la base de la MONUSCO. François Diabemi, Radio Okapi, Kalemie.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
L'ONU a nommé il y a quelques jours David Grisley, coordonnateur de la riposte contre Ebola. Qu'est-ce qui change sur le plan opérationnel? La question a été posée au représentant spécial adjoint du secrétaire général en RDC. Suivez cette question ainsi que la réponse numéro 2 de la MONUSCO.
Alors, l'ONU a annoncé qu'elle renforce donc ses opérations, qu'elle va faire des changements au niveau de la stratégie. Vous avez été nommé coordonnateur pour la réponse urgente contre Ebola. Qu'est-ce qui va changer? C'est un simple changement d'organigramme. Qu'est-ce qui va changer?
Non, c'est plutôt un changement d'approche. Je crois que les aspects techniques sont déjà là. Donc, c'est pas une question vraiment de technique. Les vaccinations sont efficaces. Le travail des personnes dans le repos est excellent, en fait. Donc, c'est plutôt l'environnement qui n'est pas propice pour le repos. Donc, ça, c'est où on doit avoir un changement sur le terrain. C'est l'approche, l'engagement avec la communauté, l'engagement avec les leaders traditionnels, l'engagement avec franchement tout le monde pour avoir une meilleure idée comment on peut gagner la confiance de la population. Je crois que ça, c'est au centre de ce problème. Donc, on va focaliser sur ça.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa,
sur Radio Okapi.
Quelques dates à retenir. 4 juin, journée internationale des enfants victimes d'agressions. Le lendemain, 5 juin, journée mondiale de l'environnement. Et le 7 juin, journée mondiale de sécurité routière au passage à niveau. Voilà, c'est la fin de cette édition du magazine des Nations Unies, produite sous la coordination de Jean-Pierre Elali Ikoko et la supervision de Martin Sebou-Jangwe. Honoré Missenga Kalala était au reportage et à la réalisation. Moi, ce Jacques-Yves Molima Aouta Missoma Pumbadoua, j'étais à la présentation avec l'assistance et la dextérité technique de Mimi Kindou. Rendez-vous donc dans 7 jours pour une nouvelle production de cette émission. Bonne suite des programmes sur Radio Okapi.